Bonjour à tous et bienvenue dans ma chronique Happy Work, la chronique du mieux vivre en entreprise. Ma question aujourd'hui est de savoir si le fait d'avoir des enfants est discriminant au travail. Peut-être que oui, peut-être que non. Voyons ça d'un peu plus près. Quand on parle des enfants et de choses qui font un peu peur, vu la période automnale dans laquelle nous nous trouvons, vous allez penser que je vais vous parler d'Halloween. Eh bien, pas du tout, car ce qui est effrayant, ce sont les chiffres. Ceci nous montre combien les femmes vivent d'injustice dans leur carrière. Et si on aurait pu penser, bien malgré nous, que les jeunes mamans sont plus facilement victimes de discrimination aux alentours de la naissance de leur enfant, il n'en est rien. Certes, les futures mamans et mères d'enfants en bas âge ne sont pas épargnées. 22% ont été discriminées à l'annonce de leur congé maternité ou congé parental et 20% à leur retour de ces congés. Mais la discrimination maternelle au travail est bien plus insidieuse. Ainsi, parmi les mamans discriminées, près d'une sur deux, 43% exactement, la discrimination n'a pas été liée à leur maternité, mais plutôt a été un phénomène continu lié à leur statut de mère. Plus inquiétant encore, 40% des femmes inactives discriminées l'ont été à l'embauche, un potentiel emploi leur échappant pour l'unique et simple raison qu'elles étaient mamans. Parfois même juste parce qu'elles étaient femmes en âge de procréer, ce qui fait une population somme toute assez importante dans le milieu professionnel. Et la boucle est bouclée si l'on rajoute la fameuse question « pas vu, pas pris » lors d'un entretien d'embauche « souhaitez-vous avoir des enfants ?» à celles qui n'en ont pas. Et je précise que cette question est encore posée à ce jour puisqu'une cliente me l'a relatée pas plus tard que la semaine dernière. Mais attention, d'autres recruteurs plus manipulateurs pensent être malins en posant la question différemment. Je vous donne quelques exemples. Les réunions après 18h, ça ne vous pose pas de problème ? Ce poste nécessite de partir une semaine, voire un mois en formation. Pensez-vous que cela sera possible pour vous ? Avez-vous déjà un mode de garde pour vos enfants ? Ce poste à responsabilité est une véritable opportunité. Il nécessite beaucoup d'investissements. Vous allez pouvoir vous organiser pour travailler, vous occuper de votre petite famille ? Oh, culpabilité quand tu nous tiens. Alors bien évidemment, comme il semble assez difficile de répondre « bien sûr que non, je souhaite me consacrer corps et âme à ma chère entreprise ». Conséquence, une femme sur quatre admet prendre sur elle et accepter la situation. Une sur trois a choisi de changer d'employeur pour mettre un terme à la discrimination dont elle était victime et seuls 2% disent avoir trouvé une solution en interne en faisant appel aux représentants du personnel ou par le biais de négociations. Pire encore, je dirais, on pourrait penser que les femmes ont largement fait leurs preuves en matière d'organisation, en jonglant quotidiennement entre vie professionnelle et vie personnelle. Mais il n'en est rien. Parmi les mamans victimes de discrimination, 38% ont été jugées par leur employeur comme moins fiables que leurs collègues à cause des aléas comme la gestion des enfants malades, les imprévus de nounou, etc., etc. Je laisserai Maître Marie vous apporter des précisions juridiques sur le sujet, mais les discriminations prohibées par la loi sont explicitement définies, tant pour les critères que pour les domaines dans lesquels s'exercent ces discriminations. Je vous les rappelle, elles portent sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, les opinions politiques, les activités syndicales, l'appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Voilà. Heureusement, les choses évoluent dans les mentalités, faisant notamment bouger les lois sur la parentalité. Je vous rappelle la dernière qui porte sur l'allongement du congé paternité. Les entreprises sont de fait incitées à jouer le jeu. Et j'ai d'ailleurs parmi mes clients des sociétés vraiment exemplaires en la matière qui n'hésitent pas à embaucher une femme enceinte ou qui le devient durant sa période d'essai. Donc ça existe encore fort heureusement. Souhaitant être complète dans mon propos, plaçons-nous maintenant du côté des personnes sans enfants dans l'entreprise. Et nous allons voir qu'il y a aussi quelques récriminations dans ce camp-là. En effet, cette population se sent parfois surexploitée et corvéable à merci du fait qu'elle n'a pas de contraintes, c'est bien connu. Alors, le salarié célibataire est-il un rêve pour les entreprises ? Vous commencez à connaître mon côté pragmatique, je vais donc vous donner le chiffre suivant. 37% des célibataires français estiment que leur célibat a été un accélérateur de carrière. Ok. En effet, perçus par les entreprises comme plus disponibles, plus souples et plus impliqués, les célibataires sont amenés à évoluer plus vite que leurs collègues en ménage. Mais attention, des études menées aux États-Unis par des sociologues extrêmement reconnus montrent que le célibat serait un atout de carrière si tant est que l'on est un homme jeune ou une femme mûre. Dans le cas contraire, on s'expose à toutes sortes de spéculations sur la bizarrerie de la situation. Parfois, certaines personnes sans enfants ou célibataires s'imposent beaucoup de pression pour répondre aux exigences avérées ou imaginaires de leurs collègues ou patrons. Et malheureusement, cela peut se retourner à leur désavantage. Je vais vous citer le témoignage fait à une journaliste de Caroline, une responsable éditoriale de 43 ans qui s'est toujours vouée à son travail et qui avoue « Quand tu es jeune, tu as envie de faire tes preuves, de montrer que tu en veux, alors tu ne comptes pas tes heures. » Malgré moi, je suis devenue mon propre dictateur. Elle indique s'être réveillée à 33 ans quand elle a vu ses amis et ses collègues se marier, avoir des enfants, quand elle restait de plus en plus tard au bureau, constatant que sa vie sociale se réduisait à un fil. C'est moi qui ai entretenu le système en laissant penser qu'étant célibataire, il était normal d'en faire plus que les autres. Elle a alors décidé de changer les choses et mettre des limites. Mais en retour, elle a perçu des regards culpabilisants. Elle a entendu des remarques comme « Ah, tu pars déjà ?» la poussant à toujours se justifier. Finalement, elle a craqué lorsque sa hiérarchie a annulé ses vacances d'été 3 semaines avant son départ, sous prétexte qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle a donc démissionné et dans son poste actuel, au moment de son embauche, elle a annoncé clairement la couleur. Ce qui n'empêche nullement ses nouveaux collègues de lancer parfois des petites phrases insidieuses. Elle en conclut donc, si on pousse la logique jusqu'au bout, j'aurais tendance à penser qu'il existe une discrimination vis-à-vis des célibataires. Je rajouterai sur ce point qu'au-delà de la pression économique et sociale subie, beaucoup d'avantages en entreprise sont tournés vers les familles avec enfants. Par exemple, les bons cadeaux à Noël, les chèques rentrés lors d'une naissance, etc. Et le fait est qu'il a été prouvé que la vie revient plus chère à quelqu'un de seul, son logement, ses assurances et surtout ses voyages, puisqu'une chambre d'hôtel coûte plus cher quand on est seul que lorsqu'on est à deux. Certaines associations ont d'ailleurs pris le sujet à bras-le-corps pour tenter de lutter contre cette différenciation, sachant qu'un tiers des ménages français sont constitués d'une seule personne. Vous le voyez, la couleur de la discrimination au travail en matière d'enfants n'est pas tranchée et elle existe, que l'on en ait ou pas. L'équité, le respect et la tolérance sont finalement, comme bien souvent, les meilleures réponses que l'on va pouvoir apporter sur le sujet. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et témoignages via Esprit Occitanie ou directement via les réseaux sociaux Facebook ou LinkedIn sur ma page Claire Bride. Je vous dis à très bientôt!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces nouvelles chroniques de Maître Marie. Si vous m'écoutez depuis le début de cette chronique, vous savez que j'essaie souvent de coller à l'actualité ou d'être inspirée par elle. Avec les tristes événements que nous venons de vivre, j'aurais eu de quoi vous parler encore de ces libertés que je chéris tant et que nous devons tous chérir et dont je vous parle si souvent. Mais pour vous dire quoi finalement que vous n'ayez déjà compris, du moins je l'espère, parce que si vous ne comprenez pas l'importance des libertés qui fondent notre République et notre démocratie, alors, eh bien alors, je ne peux rien pour vous. Sur ce thème, je vous invite à réécouter l'interview de Richard Malka, avocat et avocat de Charlie Hebdo, sur RTL cette semaine. Tout est dit, tout est magnifiquement dit. Alors, je n'aurai rien à rajouter. Et de quoi vais-je vous parler, du coup, cette semaine sur Esprit Occitanie ? Eh bien, de culture. Important aussi, la culture. Rappelez-vous ma chronique sur Polanski, la culture libre, la culture imposée par l'État, la bien-pensance, tout ça, tout ça. Si ça ne vous revient pas, eh bien hop, direction tout de suite les podcasts sur www.espritoccitanie.fr pour faire un petit peu de séance de rattrapage. Parlons donc culture et plus spécialement de cinéma. Mais pour rattacher cela à mes chroniques juridiques, eh bien parlons des avocats dans le cinéma, dans l'audiovisuel, des films d'avocats ou sur les avocats, sur le monde judiciaire en général. Bref, une petite sélection à voir ou à revoir pour ces vacances de la Toussaint qui s'ouvrent pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Alors, premier film que je voulais vous donner, par exemple, eh bien, 12 hommes en colère, un film de 1957 aux États-Unis, comédie dramatique faite et réalisée par Sidney Lumet. L'histoire de 12 hommes en colère, c'est la vie d'un homme entre les mains du jury. Lors du procès d'un jeune homme pauvre, le jury se retire pour délibérer et voter la sentence. À 11 voix contre une, le jeune homme est déclaré coupable, mais le vote doit être unanime pour que la décision soit prise en compte. Convaincu de l'innocence du jeune homme, un des jurés décide de convaincre un à un les autres, peu importe le temps que cela prendra. 12 hommes en colère est un drame poignant et efficace, devenu en quelque temps un grand classique du cinéma américain, un excellent film sur le jury, son importance, sa réflexion et bien sûr la peine de mort. Donc à voir ou à revoir, selon pendant ses vacances. Deuxième film de ma liste, Garde à vue, un film français de 1981 réalisé par Claude Miller. Au casting, Lino Ventura, Michel Serrault, Romy Schneider, rien que ça. Un film policier donc qui raconte l'histoire de Jérôme Martineau, un notaire convoqué le soir du 31 décembre pour témoigner du meurtre de deux petites filles. Convaincu de sa culpabilité, les inspecteurs Gallien et Belmont le mettent en garde à vue et tentent de le faire avouer. Mais le témoignage de sa femme change la donne. Suspense. Un casting 5 étoiles donc qui porte ce thriller haletant qui nous entraîne dans la lutte de deux policiers pour découvrir la vérité. Le film judiciaire à la française et surtout le casting impressionnant qui le porte à voir donc. Troisième film de ma liste, Le Maître du Jeu, un film sorti en 2003 aux États-Unis, réalisé par Gary Fleder et adaptation d'un roman de John Grisham, auteur américain spécialiste des romans judiciaires. Alors le pitch, comme on dit, quel est-il ? 3 ans après l'assassinat de son mari et de 11 de ses collègues sous les balles d'un tueur fou, Celeste Wood espère que soient sanctionnés les fabricants d'armes impliqués dans ce tragique fait divers. Décidé à gagner ce combat, l'avocat de la plaignante, qui s'appelle Wendall Rohr, est un homme pétri de principes généreux, un modèle de probité, et de courtoisie. Mais face à lui, le défenseur des armes Vicksburg est en réalité un pantin entre les mains du consultant en jury, ça existe aux États-Unis, Rankin Fitch, payé pour assurer sa relaxe. Cet homme de terrain aguerri a déployé des moyens humains et techniques considérables pour s'assurer le contrôle du jury, mais un seul juré a échappé à ses investigations, juré dénommé Nick. Et alors même que Fitch commence à s'interroger sur le passé et l'identité de ce dernier, une femme mystérieuse offre de lui livrer le jury clé en main pour 10 millions de dollars. Là aussi, suspense. Là encore, un film sur l'importance du jury, sa sélection, sa conviction, la machine à laquelle ça peut donner lieu aux États-Unis. Et au passage, si on commence à s'intéresser au roman de John Grisham, beaucoup ont été adaptés au cinéma et ont fait de bons films, comme par exemple La Firme, Non Coupable ou encore L'Affaire Pélican. Tout ça, à l'origine, était des romans écrits par cet auteur. On revient en France avec le quatrième film, Commis d'office, sorti en 2009, avec notamment Roche Dizem en acteur principal. Alors l'histoire est la suivante, à 40 ans révolus, Antoine Lahoud est un avocat pénaliste enthousiaste, mais déçu par son milieu professionnel. Il traîne son âme de bon samaritain de commission d'office en dossier minable. Et c'est là, à l'occasion d'une plaidoirie, qu'il est remarqué par un certain Henri Marsac, un avocat à la réputation sulfureuse. Ce dernier l'engage à ses côtés dans la défense de gros truands et le fait goûter aux fruits de sa prospérité. Lahoud ne mettra pas longtemps à comprendre que l'engouement soudain qu'il suscite chez son confrère est loin d'être désintéressé et qu'il le conduira derrière les barreaux. Un film assez réaliste sur la justice pénale, avocat commis d'office, comparution immédiate, préparation dans l'urgence et parfois dans l'indétresse, et en parallèle de ça, une intrigue et un suspense très bien menés. On retourne aux États-Unis avec mon cinquième film, Une femme d'exception, sorti en 2019. Film hommage à la personne et au parcours de Ruth Bader Ginsburg, dont je vous ai parlé dans une précédente chronique, et qui a fait équipe avec son mari Marty pour mettre fin à un siècle de discrimination à l'encontre des femmes. Elle se battra devant la cour d'appel, puis ira jusqu'à la cour suprême où elle sera ensuite nommée juge. Je vous en ai parlé et ce film retrace donc tout le parcours des procédures qu'elle a menées avec son époux contre les discriminations faites aux femmes. Sixième film, JFK, sorti en 1991 et réalisé par Oliver Stone. film avec Kevin Costner, Tommy Lee Jones. L'histoire, vous la connaissez. Alors, c'est l'histoire revisitée et présentée, en tout cas, selon les convictions d'Oliver Stone. Suite à l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy, le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, remet en cause le rapport du commissaire Warren. Ce dernier avait clôturé l'affaire en trouvant le parfait coupable, Lee Harvey Oswald. Pourtant, avant d'être abattu par un tireur isolé, le suspect avait toujours nié sa culpabilité. Pour Garrison, il est impossible que l'homme ait agi seul. Persuadé qu'un complot se trame, Garrison explore des pistes occultées et comprend vite que la CIA, le FBI et le Pentagone ont joué un rôle déterminant dans cette affaire. Prêt à tout pour faire éclater la vérité au grand jour, le procureur devient très vite l'homme à abattre. Un film captivant avec notamment des scènes de plaidoirie de Garrison, assez magistrales. Alors Garrison est procureur, il n'est pas avocat, mais le mélange entre justice et politique et certaines tirades du film rendent celui-ci tout de même très intéressant. Alors, je vous ai parlé beaucoup de films jusque-là, mais dans l'audiovisuel, eh bien, nous avons aussi les séries télévisées. Et dans les séries, alors, eh bien, pour des avocats atypiques et je dirais même un peu barrés, qui en l'occurrence ont donné le générique de cette chronique, eh bien, tournez-vous sans conteste vers Ally McBeal. Elle m'a accompagnée pendant toute ma fac de droit. C'est une série tournée entre 1997 et 2002. Elle comporte 5 saisons pendant lesquelles on peut suivre les aventures d'Ali, charmante, romantique, hystérique, excessive et passionnée, mais qui n'en demeure pas moins brillante avocate et qui défend farouchement les intérêts du cabinet Cage & Fish pour lesquels elle travaille, tout en suivant une vie personnelle assez tumultueuse. On rit beaucoup devant cette série, on rit plus qu'on ne parle de droit, mais la série reste quand même tournée vers les avocats et très intéressante. Dans un tout autre genre et plus récent, vous pouvez aussi regarder la série Suits, Avocat sur mesure, c'était diffusé sur Netflix. C'est une série née en 2011 qui compte 9 saisons, la dernière venant de sortir. Alors le pitch est le suivant, avocat très ambitieux d'une grosse firme de Manhattan, Harvey Specter a besoin de quelqu'un pour l'épauler. Et son choix se porte sur Mike Ross, un jeune homme très brillant mais sans diplôme, doté d'un talent certain et d'une mémoire photographique très précieuse. Ensemble, ils forment une équipe gagnante, prête à relever tous les défis, mais Mike va cependant devoir user de toutes les ruses pour maintenir sa place sans que personne ne découvre qu'il n'a jamais passé l'examen du barreau. Autant vous dire qu'au gré des saisons, il y aura des rebondissements et que la vie de la firme sera quant à elle rythmée par les guerres de pouvoir des associés et entre associés. Et enfin, terminons par une série française, Cocorico. Alors, c'est la série Avocats et associés, née en 1998 et qui compte 12 saisons. Elle était diffusée sur France 2. Je pense qu'on doit pouvoir trouver des rediffusions quelque part. On y suit le parcours professionnel et privé des membres d'un cabinet généraliste, traitant aussi bien d'affaires criminelles que d'affaires relevant du droit de la famille, du droit du travail, etc. Et la série aborde de façon concrète et plutôt réaliste voilà les petits et grands maux de notre société, pourrait-on résumer. Sans doute la série la plus proche de ce qu'est la réalité du quotidien d'un cabinet, tant sur les dossiers, la gestion des journées, la gestion des clients, que sur les relations parfois particulières entre associés. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura donné envie, de voir ou revoir certains films ou séries, ou donner des idées en tout cas pour occuper ces vacances qui s'ouvrent pour les chanceux et ces soirées couvre-feu qui s'imposent à tous. N'hésitez pas à commenter cette chronique sur la page Facebook d'Esprit Occitanie. Si vous souhaitez nous réécouter, retrouver cette chronique ce soir à 23h et aussi mercredi matin à 10h. Et bien sûr, dans notre bibliothèque de podcast sur www.espritoccitanie.fr. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.
Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans la Casa des Ebel. En ce 300e jour de l'année 2020, voici le programme de cette 4e émission de la saison 2 du Patchwork. Je vais commencer par répondre au quiz de la dernière émission. Je vous parlerai ensuite d'un tycoon britannique, Sir Richard Branson. Je répondrai à la question « Comment est né le théorème de Thalès ?» Et je finirai par un nouveau quiz, le quiz de la semaine. C'est parti pour cette nouvelle pause dans la Casa des Ebel avec la réponse au quiz de la dernière émission. Vous avez été nombreux, voire même très nombreux, à me fournir la bonne réponse. Je vous rappelle la question. Le 8 mai 1927, un avion biplan avec ses deux pilotes, Charles Lingesser et François Colly, disparaissait lors de la première tentative de traversée de l'Atlantique. Quel est le nom de cet avion ? Eh bien, la réponse est l'Oiseau Blanc. Le 8 mai 1927, l'Oiseau Blanc tentait le premier vol entre Paris et New York. L'avion, piloté par Charles Lingesser et François Colly, sera vu une dernière fois au-dessus d'Étretat, avant de disparaître sans laisser de traces. L'hypothèse qui prédomine est un crash à proximité du Canada, même si des témoignages de marins de Fécamp et d'Étretat laissent entendre que les deux aviateurs n'ont pas réussi à franchir la Manche. 93 ans après la tentative de Charles et François, une seule pièce de l'Oiseau Blanc a été retrouvée, son train d'atterrissage, juste largué après son décollage pour gagner du poids. Depuis, les témoignages se sont multipliés, affirmant que l'avion avait été vu au-dessus de l'Irlande, puis au-dessus de Terre-Neuve, avant de se perdre dans les brumes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Des témoignages existent également autour d'Étretat, mettant en doute la traversée même de la Manche. Aujourd'hui, le mystère reste entier. Deux semaines après leur disparition, Charles Lindbergh, à bord du célèbre Spirit of St. Louis, réussit, lui, la traversée aérienne de l'Atlantique, de New York à Paris en solitaire, sans escale, les 20 et 21 mai 1927. Si je vous parle de Sir Richard Branson, je pense que ce nom ne vous est pas inconnu. Richard Branson, 70 ans, il est marié, il a deux enfants, c'est une des personnalités les plus populaires de Grande-Bretagne. Il est un aventurier en affaires, comme dans la vie. Il a traversé le premier l'Atlantique et le Pacifique en montgolfière. Il a battu le record de traversée de l'Atlantique en hors-bord et celui de la Manche en voiture amphibie. Richard n'excelle pas à l'école. Enfant dyslexique, il n'arrive pas à rentrer dans le moule de cette institution. C'est pour ça qu'à 15 ans, il quitte l'école et crée le magazine Students, qui militera notamment pour le droit à l'avortement et contre la guerre au Vietnam. Nous sommes en 1965. À 20 ans, il commence à vendre des disques par correspondance et ouvre son premier magasin à Londres sous le nom de Virgin. En 1973, il n'a que 23 ans lorsqu'il produit la symphonie rock Tubular Bells créée par Mike Oldfield. Cet album sera un énorme succès qui fut ensuite choisi pour servir de bande originale pour le film L'Exorciste. Et si vous souhaitez découvrir l'histoire de cet album, je vous conseille d'écouter le podcast de l'émission Progressive d'hier soir, qui fut consacré à cet album. Après ce premier succès, Richard Branson, via sa société Virgin Records, signe de nouveaux artistes, tels que les Sex Pistols, les Rolling Stones, entre autres. En 1993, il revend Virgin Records à EMI, pour $1 milliard, mais conserve la marque Virgin, et crée une compagnie aérienne, des mégastores, une radio, des services financiers, des lignes de chemin de fer, etc., etc., etc. Virgin, sa marque emblématique, représente aujourd'hui plus de 200 sociétés dans 30 pays. En 1999, il est anobli par la reine Elisabeth II. Depuis, les projets continuent de fourmiller, avec par exemple la création de la première agence de voyage dans l'espace. Dernière anecdote concernant ce personnage haut en couleur, il décide, le 1er juillet 2012, de réaliser la traversée de la Manche en kitesurf, devenant ainsi à 61 ans le sportif le plus âgé à réaliser ce périple. On peut dire qu'aucun destin contemporain ne ressemble au sien. Je vais tenter de répondre à la question « Comment est né le théorème de Thalès ?» La semaine dernière, j'assistais à une conférence organisée par une amie dont le thème était les mathématiques et les cartes mentales. Au cours de cette conférence, Agnès nous parla de Thalès et de la découverte de son célèbre théorème, le théorème de Thalès. Facile. Nous l'avons tous appris sans véritablement comprendre à quoi il servait. Eh bien, voici la genèse de ce théorème sur lequel de nombreux élèves se sont, permettez-moi l'expression, cassés les dents. Après quelques jours d'un voyage interrompu par de nombreux arrêts dans les villes bordant le Nil, Thalès l'aperçut. Dressé au milieu d'un large plateau, non loin de la rive, la pyramide de Khéops. Thalès n'avait jamais rien vu d'aussi imposant. Deux autres pyramides, Khéphren et Mykérinos, s'élevait sur le plateau à côté. Elle paraissait petite, et pourtant. Tout au long du voyage sur le Nil, les voyageurs l'avaient pourtant averti. Les dimensions du monument dépassaient tout ce qu'il avait imaginé. Thalès quitta la felouque, le bateau qu'il empruntait pour descendre le Nil. À mesure qu'il s'approchait, sa marche se fit plus lente, comme si le monument, par sa seule masse, parvenait à ralentir ses pas. Il s'assit, vaincu. Un fellah, un paysan d'Égypte, sans âge, s'accroupit à ses côtés et lui dit « Sais-tu, étranger, combien de morts a coûté cette pyramide que tu sembles admirer ?»«
Des milliers, sans doute. »
« Des centaines de milliers. » »« Des centaines de milliers ?» Thalès le regarda, incrédule. « Plus, peut-être, » ajouta le fellah. « Pourquoi tant de morts ? Pour creuser un canal ? Retenir un fleuve ? Jeter un pont ? Construire une route ? Bâtir un palais ? Dresser un temple en l'honneur des dieux ? Ouvrir une mine ? Tu n'y es pas. Cette pyramide a été dressée par le pharaon Khéops dans le seul but d'obliger les humains à se persuader de leur petitesse. La construction devait excéder toute norme pour nous accabler. Plus gigantesque elle serait, plus infime nous serions. Le but est atteint. Je t'ai vu t'approcher et, sur ton visage, j'ai vu se dessiner les effets de cette immensité. Pharaon et ses architectes ont voulu nous contraindre à admettre qu'entre cette pyramide et nous, il n'y a aucune commune mesure. Thalès avait déjà entendu pareille spéculation sur le dessin du pharaon Khéops, mais jamais aussi impudiquement et aussi précisément énoncé. Aucune commune mesure. Ce monument, volontairement démesuré, le défiait. Depuis 2000 ans, l'édifice, construit pourtant par la main des hommes, restait hors de portée de leur connaissance. Quels qu'étaient les buts du pharaon, il restait une évidence. La hauteur de la pyramide était impossible à mesurer. Elle était la construction la plus visible du monde habité et elle était la seule à ne pouvoir être mesurée. Thalès voulut relever le défi. Toute la nuit, le fellah parla. Ce qu'il raconta à Thalès, personne ne l'avait jamais su. Lorsque le soleil éclaira l'horizon, Thalès se leva. Il regarda sa propre ombre se déployer en direction de l'ouest. Il pensa que, quelle que soit la petitesse d'un objet, il existe toujours un éclairage qui le fait grand. Longtemps, il resta debout, immobile, les yeux fixés sur la tache sombre que faisait son corps sur le sol. Il la vit rapetisser à mesure que le soleil s'élevait dans le ciel. « Puisque ma main ne peut effectuer la mesure, ma pensée l'effectuera », se promit-il. Thalès fixa longuement la pyramide. Il devait se trouver un allié à la mesure de son adversaire. Lentement, son regard alla de son corps à son ombre, de son ombre à son corps, puis se porta sur la pyramide. Enfin, il leva les yeux. Le soleil lançait ses rayons terribles. Thalès venait de trouver son allié. Que ce soit l'Hélios des Grecs ou le dieu Ra des Égyptiens, le soleil ne fait aucune différence entre toutes les choses du monde. Il les traite de la même façon. C'est ce que plus tard en Grèce, concernant les hommes entre eux, on appellera démocratie. En traitant semblablement l'homme minuscule et la gigantesque pyramide, le soleil établit la possibilité de la mesure commune. Thalès se pénétra de cette idée. Le rapport que j'entretiens avec mon ombre est la même que celui que la pyramide entretient avec la sienne. Il en déduisit donc, à l'instant où mon ombre sera égale à ma taille, l'ombre de la pyramide sera égale à sa hauteur. Ben là voilà, l'idée recherchée. Encore fallait-il pouvoir la mettre à exécution. Thalès ne pouvait effectuer seul l'opération, il fallait être deux. Le fellah accepta de l'aider. Peut-être est-ce ainsi que cela s'est réellement passé. Comment le savoir ? Le lendemain, dès l'aube, le fellah se dirigea vers le monument et s'assit à l'ombre immense de la pyramide. Thalès traça dans le sable un cercle au rayon égal à sa propre taille, se plaça au centre, se redressa afin d'être bien droit, puis il fixa des yeux le bout de son ombre. Lorsque celle-ci effleura la circonférence, c'est-à-dire lorsque la longueur de l'ombre fut égale à sa taille, il lança le cri convenu. Le fellah qui guettait planta immédiatement un pieu à l'endroit atteint par l'extrémité de l'ombre de la pyramide. Thalès courut vers le pieu. Ensemble, sans échanger un mot, à l'aide de la corde bien tendue, ils mesurèrent la distance séparant le pieu de la base de la pyramide. Quand ils eurent calculé la longueur de l'ombre, ils connurent la hauteur de la pyramide. Sous leurs pas, le sable se leva. le vent du sud se mit à souffler. Thalès, l'Ionien et l'Égyptien marchèrent vers la rive où venait d'aborder une felouque. Le sommet de la pyramide disparut à leurs yeux fatigués. Thalès sauta dans la felouque. Sur la rive, le Fela souriait, la felouque s'éloigna. Thalès était fier. Avec l'aide du Fela, il avait inventé une ruse. Le vertical m'est inaccessible. Aucun problème, je l'obtiendrai par l'horizontal. Je ne peux pas mesurer la hauteur parce qu'elle se perd dans le ciel. Je mesurerai son ombre écrasée sur le sol. Avec le petit, mesurez le grand. Avec l'accessible, mesurez l'inaccessible. Avec le proche, mesurez le lointain. Eh oui, les mathématiques sont une ruse de l'esprit. Et pour finir cette parenthèse inattendue, je vous propose un quiz égyptien cette fois-ci. Je viens de vous parler de la pyramide de Khéops et de la mesure de sa hauteur grâce à la ruse de Thalès. Mais au fait, quelle est sa hauteur ? C'était la Casa de Ebel. Je vous remercie pour votre écoute et attends vos réponses au quiz de la semaine. À la réalisation Yanis, qui m'accompagne au cours de cette nouvelle saison, et Maëva, qui nous permet d'avoir un son de très grande qualité.
Chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Je vous fais découvrir cette semaine un chapitre du roman « Superman ne volera plus » de Gilbert Nogues aux éditions Cairn. Il débute par le couplet d'une chanson de Jean-Roger Caussimon, « Nous deux ».
Puisque vagabonds de nos âmes, embrassons-nous tout près des lames de l'océan des mauvais jours.
La température matinale est largement descendue en dessous de zéro. Un vent de Sibérie est venu chasser les deux ou trois journées de beau temps de la semaine dernière. Il a fait jusqu'à 16 degrés. Une fois n'est pas coutume, suite aux nuits agitées que nous passons avec Consuelo, nous nous sommes levés tardivement. J'entends le bruit de la douche dans la salle d'eau. J'entends aussi la mélodie qu'elle chante à tue-tête. Je ne suis pas comme elle, férue en chansons françaises, mais celle-là, j'en connais au moins le refrain. Je rejoins ma chanteuse préférée. La paroi de verre est aussi embuée que l'esprit d'un jeune macronien qui regarde ses deux mains et éprouve du mal à reconnaître sa droite de sa gauche.
Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant.
Elle a dû sentir ma présence, ou tout simplement entendre ma voix reprendre les paroles du moustachu « c'est toi ». Oui, je me mets au chant. Te gêne pas pour mater la top modèle ? T'as peut-être envie de me savonner ? Chacun son tour. Elle fait allusion à notre toute première aventure sous la douche. Ce jour-là, je n'en menais pas large. Depuis, nous avions largement partagé la vue de nos corps. Le sien, rebondissant, tout en chair à déguster, tout en rondeur à contourner, le mien, aussi dépouillé qu'un compte en banque de smicard, aussi flasque qu'une gourde en peau qui a rendu son dernier filet de vin, aussi cachectique qu'une mannequin anorexique. Excusez le pléonasme. Je tends la serviette à la chanteuse. Essuie-moi le dos. Ce n'est pas la chaleur de la pièce qui, à cet instant, rougit mes joues, mais je sens bien que je pique un phare. Oups, je ne m'attendais pas à ce genre de situation. Je connais ce corps, je le vois en long, en large et aussi en travers, mais au grand jamais je n'y ai posé mes mains. J'ose pas, ma toute belle. Je n'en reviens pas de ce que je viens de dire. Les mots ont dépassé mes pensées. Ou pas.
Et ce jour-là, ma tourterelle, ma fille à moi, ma toute belle, ma frangine d'amour, ma maman.
J'empoigne la serviette et j'essuie le visage de la divine qui poursuit.
Que tout se glace, que tout flambe, ça fait rien si l'on est ensemble, nous deux.
C'est joli ce que tu chantes. J'éponge ses épaules et lentement, je descends vers sa poitrine. Tu aimes ? Oui. C'est très beau. Ha ha ha. Éclate de rire. La chanson est de Jean-Roger Caussimon et c'est Léo Ferré qui a fait la musique. Mais ce que je voulais savoir, c'est si tu apprécies mes gros nibards. Ils sont superbes, eux aussi. Mes mains laissent choir la serviette et j'enfonce mon visage dans cette poitrine qui m'a si souvent accueillie. J'embrasse l'un, puis j'embrasse l'autre. J'aime ses seins. J'aime tes seins. Elle en serre ma tête, j'en perds la respiration. Je n'ai jamais connu un bonheur aussi intense. Tout mon corps vibre, tremble par endroits, frémit par d'autres, se raidit aussi. Les mots restent inaudibles. Dans ma bouche goulue étanche, une soif inéprouvée. Je tente enfin de m'extraire de son étreinte. J'ai envie de pleurer. Elle appuie mon oreille contre elle. Sa main caresse mon crâne avec tendresse. Un flot continu s'immisce entre ses deux mamelons. Pleure si ça te fait du bien. Mais moi, tout ça, ça m'a donné une putain d'envie de niquer. Elle m'empoigne à bras le corps, me soulève, m'emporte tel un fétu de paille vers la chambre et me jette sur le lit. On va commencer par une petite mise en bouche et après, je te promets, entrée, plat garni, fromage et dessert. Chers auditeurs, je vous dis donc à la semaine prochaine et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les podcasts de toutes les émissions sur www.espritoccitanie.fr ou sur l'application mobile pour smartphone. À bientôt !